Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Donc, on est de retour avec notre sujet hyper polémique sur la Palestine et Israël. Non, c'est pas vrai, en fait. Je vais laisser la parole à Marc-Antoine pour laisser son petit commentaire et on ira ensuite avec sa chronique sur le sommet des 27. Vas-y, Marc-Antoine.
Juste apporter une petite précision sur ce qu'Enzo a mentionné. Oui, la Palestine a un statut d'État observateur ouais. À l'ONU. Éventuellement, lorsqu'il y aura résolution du conflit, il y a une résolution de l'ONU qui stipule que la solution à deux États, Israël et la Palestine, dans la résolution sur la création d'Israël.
Donc, s'il reste quelqu'un dans la bande de Gaza, il va avoir une résolution à l'ONU. Je me sens tout à fait rassuré par rapport à ça. Excusez, je suis un peu cynique, mais...
On pourrait d'ailleurs avoir une discussion. Je vais pas élargir le débat parce qu'il faut que je te laisse faire ta chronique, Marc-Antoine. Mais on pourrait avoir une discussion sur cette fameuse solution à deux États. Ça serait intéressant aussi. Mais effectivement, comme dit Jérémy, le fait que l'ONU attende la fin du conflit pour déclarer la Palestine comme un État, je trouve que c'est assez absurde en fait. Hein. C'est assez abject parce que attendre de regarder les yeux ouverts un peuple se faire bombarder et après décider si on aura l'aisance de lui laisser la possibilité d'avoir des soutiens internationaux ou pas. Ouais, je trouve ça... Ouais. Bref, je trouve ça assez absurde. Mais bon, je vais te laisser la parole, Marc-Antoine. Merci.
Merci, Enzo. Donc, avant de commencer ma chronique, je vais revenir sur certains éléments que j'ai abordés dans ma chronique sur l'OTAN parce que il y a des liens effectivement à faire avec ma chronique d'aujourd'hui. Donc, il y a deux semaines, on se rappelle, l'OTAN a débuté son exercice Steadfast Defender ou Défenseur inébranlable, qui est d'ailleurs le plus important exercice depuis la guerre froide, dans le but de montrer son soutien à l'Ukraine, qui est en conflit avec la Russie depuis près de deux ans. Maintenant, il y a également eu le vote du Parlement turc qui ratifie l'adhésion de la Suède dans l'OTAN. Il y a deux aides qui sont en attente d'être débloquées. Il y a l'aide américaine de 60 milliards de dollars américains qui demeure bloquée au Congrès actuellement en raison d'une opposition des élus républicains. Il y a un projet de loi qui est en cours, dont les détails sont sortis justement hier, sorti d'une aide de 14 milliards de dollars américains pour Israël, tout en incluant une réforme du système migratoire américain, qui est un enjeu de la campagne électorale qui se déroule actuellement. La deuxième aide concerne l'aide de l'Union européenne, qui est une aide financière de 50 milliards d'euros sur 4 ans. Elle était bloquée par la Hongrie, ce qui empêchait l'octroi de l'aide parce que l'unanimité est requise. Il y avait un déblocage qui avait été envisagé lors du sommet des 27 au début février. Ce sommet a eu lieu jeudi. L'aide européenne, le montant est divisé en deux formes. Il y a le deux tiers du montant qui est divisé sous forme de prêt. Le tiers restant est divisé sous forme de don. Elle vient d'être débloquée jeudi dernier parce que la Hongrie a levé son veto à l'occasion du sommet des 27. La Hongrie est l'un des rares pays européens, probablement le seul à ma connaissance, si mes collègues veulent me corriger. Ils sont les bienvenus, qui n'ont pas rompu les liens complètement avec la Russie. En ce sens, ils importent toujours du pétrole russe. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjártó, s'est rendu en Ukraine cette semaine pour la première fois depuis le début du conflit. Accompagné de son homologue ukrainien et d'un conseiller du président Zelensky, cette rencontre avait pour but de réduire les litiges entre les deux pays. Ces litiges, principalement... Excusez-moi, je me suis perdu dans mon idée.
Sans problème, Marc-Antoine. C'est des choses qui arrivent à la radio. Là. J'espère que nos auditeurs ne nous en veulent pas trop. Des fois, on se perd dans nos idées. Je vous laisse imaginer combien d'articles on lit par semaine pour essayer de justement diriger ça, tout articuler. Donc, je relance la perche à Marc-Antoine. Là.
Ces litiges, dans le fond, c'est surtout que l'Ukraine reprochait à la Hongrie son inaction dans le conflit ukrainien parce qu'elle est beaucoup plus proche de Moscou. Puis la Hongrie se montrait critique des autorités ukrainiennes pour leur gestion de la minorité hongroise en Ukraine. Le sommet, si jamais éventuellement il y aurait eu un refus de la Hongrie, il y aurait eu des conséquences sur l'économie hongroise parce que l'Union européenne aurait coupé ses fonds qu'elle dirigeait vers la Hongrie. Ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait en raison de politiques contraires aux valeurs occidentales. Ici, je parle surtout de l'état de droit et de la liberté de presse. Ce qui aurait eu comme conséquence un impact direct sur les investissements directs étrangers du pays. Donc, pour résumer simplement, c'est les entreprises étrangères qui investissent en Hongrie et une conséquence sur une chute de la monnaie nationale du pays, le forint. Il y a certaines mesures prises par l'Union européenne, la levée de tarifs douaniers sur certains produits alimentaires comme le blé et le poulet, que l'Union européenne avait fait en appui à l'Ukraine, qui est parmi les causes des récentes mobilisations des agriculteurs que mon collègue Enzo a évoquées dans sa chronique la semaine dernière, surtout en Pologne, en Roumanie et en France. Parce que dans ces pays, les agriculteurs perçoivent ces mesures comme une menace à leur industrie. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment.
Tout est super clair, Marc-Antoine. Tu fais ça super bien. Là. Je te laisse continuer sur ta chronique.
C'est ça.
Donc... C'est ce qui conclut en fait notre chronique avec Marc-Antoine. Donc on va se laisser pour une petite pause musique et une petite pause musicale. Je vois que c'est du Émile Bilodeau qui s'en vient. J'imagine qu'on a des fans d'Émile Bilodeau qui nous écoutent. Donc je vous lance ça et on se revoit après la pause pour une petite entrevue avec Bernard Tremblay, président directeur général de la Fédération des Cégeps, qui va nous parler justement de la 34e semaine de la prévention du suicide.